Koschka, enfance en pays charbonnier. 3. Premières aventures, deuxième partie. Le Saint-Dris, dépotoir, terrain vague. Il y avait, au bout du chemin longeant les établissements Smulders, et juste avant le carrefour desservant les deux terrils, un petit terrain en triangle cerné de grandes orties de plus d'un mètre cinquante de haut. Celle-là même, à la tige carrée rouge, jaune et même un peu grise, qui, telles des arbres nains, se divisent en plusieurs branches et laissent le sol nu, ce qui est diabolique, car il s'agit bien là d'un des pièges les plus pervers qui soient. Malheur à celui qui se laisse tenter, malheur à celui qui ose ramasser un trésor abandonné à ses pieds comme un gros escargot ou une capsule colorée de bouteilles de soda. En effet, la récompense immédiate était de terribles brûlures. Ce petit terrain nous était strictement interdit, et pour des enfants, ce qui est interdit surtout strictement est d'une attirance des plus diaboliques. Nous y allions donc régulièrement, non pas jouer, mais y pratiquer des fouilles. Ce terrain était jadis clos de barbelés, leurs vestiges étaient encore visibles par endroits dans les ronces et les orties et portaient le nom mystérieux de Saint-Dris. Nous y trifouillons à qui mieux mieux. Bien que destiné à recevoir les cendres des poêles à charbon, il servait plus ou moins de dépotoir aux objets, dits aujourd'hui non biodégradables ou encombrants, telles des liasses de femmes d'aujourd'hui ligotées par de la grosse corde de chanvre, ou encore ces cageots de bois blanc qui, après avoir servi de contenance aux fruits et légumes, puis de rangements divers, venaient s'échouer là comme des épaves abandonnées par la mer. Nous y trouvions tant d'objets merveilleux, tels ce splendide urinal en tôle émaillée blanche, moucheté de bleu, ou le même violet et gris. Cette trouvaille à l'usage mystérieux ressemblait fort à un objet volant non identifié. Ou encore cette valise en cuir bouilli qui avait perdu son couvercle, mais qui pour nous devenait une magnifique luge. Elle nous faisait descendre les seins aux herbes jaunies, plus vite que la vitesse de la lumière, car nous étions en bas avant même de savoir que nous étions partis. Régulièrement, nous découvrions également des ampoules d'eau bidistillée accompagnées de leurs petites scies. Déjà, l'eau distillée est rare dans la nature, mais trouver de l'eau bidistillée relevait du miracle. Nous avions découvert du matériel de survie pour farfadets perdus. Une fois, j'y ai même trouvé une énorme seringue pour géant. En laiton, elle avait perdu son aiguille, probablement un fleuret. J'y trouvais fréquemment de vieux robinets, eux aussi en laiton, mais atteints de cette maladie qui les rend verdâtres. J'avais également commencé une collection de capsules de bouteilles pour la beauté de leur couleur. Je vois encore celles de Pied-Bœuf, Apollinaris, Chevron, Vivenise Bleu, Fanta, Aèche, Grenadine Spa, Cécémel et bien d'autres encore dont j'ai oublié les noms et les nuances. C'était pour toutes ces raisons que seuls les enfants peuvent percevoir que nous adorions jouer dans cet endroit. C'était une époque où on trouvait de tout dans le Saint-Dris. Saint-Dris, dépotoir, terrain des monts. Le château d'eau. Au pied du terril était adossé un de ces rares petits châteaux d'eau de la banlieue liégeoise. C'était un cube de béton semi-enterré, dont seule la façade munie d'une porte en fer était visible. Du haut de son toit envahi d'herbes sauvages, nous surplombions toute la campagne environnante. Le blé à perte de vue, le vent y faisait onduler les épis, telle la mer, vague après vague. En plus d'être un terrain de jeu de prédilection, comme l'observation des lapins ou de folles glissades sur carton, ce château d'eau avait une particularité que nous chérissions par-dessus tout. Lorsque nous étions juchés sur sa croupe herbeuse, nous devenions invisibles des gens d'en bas. C'était donc un endroit privilégié pour jouer loin du regard gênant des adultes. Nous aimions tout particulièrement le jeu bien connu de la bague d'or. Nous nous asseyions en rond, sauf bien sûr le dépositaire de la bague. À tour de rôle, il passait les mains jointes cachant la bague entre les mains des joueurs de la ronde et déposait délicatement l'anneau dans l'une d'elles, l'enjeu étant de découvrir qui avait reçu le bijou. Celui qui détenait alors la bague prenait la place au milieu et celui qui chutait avait un gage. D'habitude, on se contentait d'un petit bonhomme sans rire ou d'une grimace quelconque. Le toit en terrasse permettait une variante. On était embrassé, parfois même, rarement, sur la bouche. Tous les garçons que nous étions rêvaient que cette chance leur tombe dessus. C'est ainsi que, par une belle journée d'été, une grande fille, plus avertie que les autres, glissa sa langue entre mes lèvres. J'ai oublié son nom, mais je n'oublierai jamais le goût et le parfum de ce baiser. J'allais avoir 12 ans. L'école. Jusqu'à l'âge de 14 ans, nous allions à l'école par tous les temps en culottes courtes. En hiver, par grand froid, elles étaient en velours, descendaient jusqu'aux genoux et étaient complétées par de hauts bas de laine. Nous avions un passe-montagne qui protégeait les oreilles et, bien sûr, une écharpe tricotée maison et un chaud manteau. Je me rappelle tout particulièrement celui des années 60. Mon père nous faisait lever dès l'aube et, après nous être débarbouillés comme des chats, nous descendions rapidement à la cuisine qui était chauffée par une énorme cuisinière aux coques. Pour affronter ces rudes journées d'hiver, il nous avait préparé une fricassée faite d'une énorme tranche de lard et de 4 ou 5 épaisses rondelles de pommes qui nous attendaient toutes chaudes dans l'assiette. Ce mélange de sucré salé, croquant par la tranche de lard cuite à cœur et fondant par les tranches de pommes à peine saisies dans la graisse chaude, était un vrai délice. D'autres fois, il remplaçait les pommes par 2 œufs dont le blanc croustillait sur les bords, alors que le jaune était resté tout onctueux. Parfois aussi, il nous fricotait une poêlée de matouffée. Au Saint-Doux maison. Cela embaumait tant dans toute la maison qu'il n'avait pas besoin de nous appeler 2 fois. Ces déjeuners roboratifs étaient accompagnés de 2 tranches de pain beurré. Avec ce solide petit déjeuner, nous étions d'attaque pour couvrir le chemin de l'école et braver les rigueurs du dehors. La route était relativement longue jusqu'à la cour de l'école communale, où nous savions que nous attendaient les longues glissades préparées par ceux qui venaient de moins loin, comme du Pérou ou du Berleur. Car nous venions de bonne fortune, et avec ceux du Flot, nous habitions les quartiers les plus éloignés. En classe, nous avions des bancs à 2 places, et ici, à l'école de l'hôtel communal, contrairement à celle du Bout où les cours étaient mixtes, il y avait des classes pour les garçons et des classes pour les filles. Même les cours de récréation étaient séparés. Notre hantise était de partager le banc avec un péteur. Mais pour moi, c'était bien, car mon voisin de banc était un garçon doué pour le dessin. Il faisait des galions espagnols plus vrais que les vrais. J'avais inventé une espèce de tombola pour me débarrasser des jouets qui ne m'intéressaient plus. Tous les billets étaient gagnants, ce qui était révolutionnaire à l'époque, et je les vendais 1 franc. On gagnait soit un petit sujet comme ceux des surprises, ou un chromo, en consolation au choix, soit un soldat de plomb. Ma tombola rencontra un tel succès que je dus bientôt chercher à refaire mon stock et dus aussi affiner la qualité des lots. En fait, je mettais en application à mon échelle les lois commerciales de l'offre et de la demande. Cependant, celles-ci devinrent tellement contraignantes que je n'en retirai plus aucun bénéfice ludique. De plus, je fus très vite plagié, mais je dois avouer qu'aucune autre loterie n'atteignit la notoriété de la mienne. Elle me valut d'ailleurs de passer une longue heure dans le bureau du directeur, où il me fut expliqué tous les règlements auxquels j'avais dérogé. Ma tombola commençait à s'essouffler et à ne plus m'amuser, quand l'école, dans sa candeur, m'offrit cette royale porte de sortie. Je m'empressai de la prendre au grand plaisir de l'instituteur en chef, qui dut être étonné de l'influence de son prône. Dans notre école, nous jouions aux images, nom barbare pour désigner un jeu de hasard. Il s'agissait de mettre en commun un même nombre d'images. Posées au pied d'un mur, successivement, chaque joueur soufflait dessus d'un coup sec pour en retourner un nombre, pair ou impair, choisi au préalable. Une variante était d'appuyer le lot contre un mur à hauteur des yeux et de le lâcher brusquement. La règle restait celle du nombre pair ou impair choisi. Les images descendaient alors en virevoltant, en montrant leurs faces ou leur dos. Celles gagnées étaient alors ramassées et les autres remises en jeu par le joueur suivant. Les souvenirs de ces petits matins rudes d'apparence sont devenus maintenant, avec le recul du temps, de purs moments de bonheur. Finalement, cette période fut une des plus belles de mon enfance, alors que nous ne le savions pas. Mais n'est-ce pas tout le temps ainsi ? Les trams. L'arrêt du tram se trouvait à plus ou moins 200 mètres de la sortie du Coron, à gauche vers Montenier, à la Guesse, la Pie en Vallon. C'était le 53 qui faisait Liège-Jemeppe via Grasse-Berleur et Ologne-aux-Pierres. Le 53 barré passait lui aussi à Grasse-Berleur, puis à Ologne-aux-Pierres, mais allait ensuite à Montcroteux. Cet arrêt, ouvert à tout vent, se trouvait au croisement de son site propre et de la voie publique qu'il empruntait alors pour descendre à Liège. Il passait par des arrêts aux noms étranges et exotiques comme Patience et Beaujon, Bon Buveur, Tête de Bœuf, Place des Bons Enfants. Il terminait sa course place Saint-Lambert, devant le palais des princes-évêques, siège du gouvernement provincial. Mais notre convoitise, pour nous qui venions de la campagne, était surtout dirigée sur les grands magasins qui bordaient cet espace. Que les noms de Grand Bazar, Bon Marché, Sarma, Phare, Vierge Noire ont pu nous faire rêver. Et nous, les enfants, c'était tout particulièrement le troisième étage du Grand Bazar qui nous attirait, car, entièrement réservé aux jouets, il était une véritable caverne d'Ali Baba. Oh, ce que j'aurais aimé que ma mère m'y perde ! La place Saint-Lambert, une place ronde bordée d'arbres, était le rendez-vous de tous les trams jaunes. Il en venait de tous côtés. De Herstal par la rue de Bèze, d'Outremeuse par la rue Léopold, celle de Simenon, de la gare des Guillemins par le boulevard de la Sauvenière et la place Foch, et le nôtre par la rue de Bruxelles. Au centre de cette place trônait un avion en bois jaune. On ne pouvait, comble de sadisme, y monter que pour se faire prendre en photo. Je n'ai jamais pu m'y installer et n'ai donc jamais su s'il volait réellement. Les nombreux pigeons en cet endroit, eux, volaient très bien et atterrissaient encore mieux. Mais il fallait les approcher de très près et encore, le plus souvent, ils préféraient reculer en recoulant à qui mieux mieux. Ils avaient une façon de marcher très comique en jetant la tête en avant à chaque pas. La place de la République française, voisine, était, elle, le terminus des trams verts, ceux de Seringue, Tilleur, Ougrée et d'autres régions inconnues. Et c'était là que se trouvait la grande aubette à journaux où l'on vendait les dixièmes de la loterie coloniale. Il y avait aussi beaucoup de fleuristes et les fleurs coupées étaient présentées dans de grands seaux verts. Boulevard de la Sauvenière, à côté des trois cinémas dont les affiches nous faisaient rêver, le Carrefour, le Crolly, le Caméo, se trouvait la gare routière, la moins connue, celle aux autobus verts et jaunes qui allait beaucoup plus loin. Nous prenions un de ces autobus une fois par an, celui d'Athus, et nous en descendions à Bastogne pour aller dire bonjour à parrain et marraine, les parents de papa. On partait tôt le matin de Grasse pour arriver à 13h à Bastogne et on repartait à 16h pour être rentré à la maison vers 22h avec le dernier tram qu'il ne fallait surtout pas rater. À cette occasion, marraine faisait des galets, une sorte de gaufre en pâte levée, que l'on fendait et beurrait avant que parrain y dépose une tranche de son jambon. Le mélange de la pâte à peine sucrée avec l'amertume corsée du jambon d'Ardenne était un régal. Aujourd'hui encore, c'est ma madeleine à moi. Le vélo. J'avais environ 11 ans lorsque cette chose merveilleuse m'arriva. Elle a certainement changé tout le cours de ma vie. Elle a vraisemblablement alimenté ma soif de découverte d'horizons inconnus. Je ne savais pas à cette époque que des horizons nouveaux pouvaient être au fond du jardin. J'ai hérité le vélo de mon père, celui-là même qu'il utilisait pour aller travailler. Il venait de s'acheter un vélo moteur bien plus confortable pour parcourir le trajet Grasse-Tilleur en passant par Saint-Gilles. Ce chemin, assez long, était surtout pénible au retour avec la remontée de la vallée de la Meuse vers le plateau Esbignon. De plus, il devait l'effectuer 6 fois par semaine et par tous les temps. Ce vélo, un semi-course professionnel, était une pure merveille. Il était conçu pour durer, comme beaucoup d'objets utilitaires de l'époque. Après avoir réglé la selle à ma taille, papa m'avait, en m'initiant au premier coup de pédale, expliqué l'importance d'une assiette correcte pour pouvoir rouler droit. Après les quelques péripéties habituelles du débutant, telles chutes, rencontres inopportunes avec un poteau et autres avatars, je maîtrisais très vite ce cheval à deux roues. Il était blanc comme la liberté qu'il m'offrait. Il était blanc comme l'espace qu'il m'invitait à découvrir. Le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir oublié son nom. Il y a eu un avant et un après. Avant, à pied, nous avions dans le quartier la possibilité d'avoir un champ d'exploration qui se limitait à un rayon de 2-3 kilomètres. 3 kilomètres était une véritable expédition, comme d'aller jusqu'à la CAV Danse ou jusqu'au Paradis aux Chevaux, de Hologne aux Pierres, ou encore descendre dans le Bout, revoir l'ancienne maison. Après, le vélo d'un seul coup agrandissait d'une façon démesurée notre champ d'investigation. De quelques kilomètres, nous passions à 20-30 kilomètres. Soudainement, le monde s'est ouvert à moi, du moins c'est la sensation enivrante que me procurait le vélo. Par cet espace, 10 fois plus vaste, il offrait une nouvelle dimension à nos jeux. En effet, si nous emportions le pique-nique et partions pour une 50aine de kilomètres, nous nous livrions ainsi à l'aventure et cette ivresse nous offrait un autre monde. Je me souviendrai toujours de mon premier voyage entre Troos et Frépont sur la Vèvre, qui fut l'occasion de découvrir de multiples merveilles. La rivière, les prés, les bois et les petits villages d'un monde miniature, d'une richesse que je ne soupçonnais pas, moi qui avais toujours vécu dans un pays où seuls les terrils, les châteaux d'eau et les clochers donnaient du relief au paysage. Ce qui m'avait le plus frappé dans cette petite vallée, où je retournerai souvent par la suite, fut le contraste avec mon quartier, cette netteté, cette impression de propreté qui régnait partout. Le paradis aux chevaux. En wallon, un paradis désigne aussi un champ d'équarissage où l'on enterrait les dépouilles des chevaux. Ce jour-là, Jean-Pierre et moi avions décidé de partir à l'aventure dans une partie de la commune que nous ne connaissions que par ouï dire. Nous voilà au cimetière communal. C'était un endroit un peu mystérieux, un espace carré fermé par de grandes grilles en fer et cerné de hauts murs de briques rouges. Ce cimetière se trouvait au pied du terril des 36 Bonniers, aux confins de la commune. C'était le dernier endroit habité avant d'entrer sur le territoire de Hologne-aux-Pierres. En disant « habité », j'entends bien sûr le dernier endroit marqué de la main de l'homme, car au-delà, nous entrions en terra incognita. Entre le cimetière et le terril, nous avions trouvé un petit sentier bordé d'orties géantes, dangereuses à approcher avec nos culottes courtes. Il s'agissait de grandes orties de plus d'1,50 m de haut, à la tige carrée, rouge puis jaune, avec un peu de gris et laissant le sol apparent, ce qui est diabolique. Malheur à celui qui s'y laisse prendre en osant, par exemple, ramasser un de ces trésors visibles comme un gros escargot ou une belle capsule très colorée d'une bouteille de soda. Celui-là le payait immédiatement de terribles brûlures. De l'autre côté, c'était un énorme roncier qui longeait le sentier. Couvert de murs en cette saison, il ne fallait pas nous prier beaucoup pour que nous nous régalions tout en avançant. Ce sentier était très praticable car il était empierré par endroits de briques concassées et d'argile à d'autres. Après environ 300 mètres, le mur du cimetière s'interrompait et laissait la place à d'immenses cultures de betteraves que nous pouvions apercevoir entre les orties. Le terril, lui, était recouvert de bouleau et le contraste des troncs blancs sur le sol gris-noir était fort troublant. Enfin, nous débouchions sur un bois de peupliers appelé le bois des corbeaux. Ici, en effet, chaque arbre est occupé par un immense nid de ce volatile criard et noir presque funèbre. Mais c'est normal, puisqu'on se trouvait à 350 mètres à peine d'un cimetière. Nous l'apercevions d'ailleurs toujours entre les arbres, derrière nous, légèrement en contrebas. Car depuis quelques instants, nous montions vers un sas pour nous totalement inconnue. Le bois dépassé, nous débouchions au bas d'une colline, envahie par des genêts, entre lesquels nous nous faufilions pour continuer à monter. Sans doute n'étions-nous plus sur le territoire de Grasse-Berleur, mais bien sur celui d'Ologne-aux-Pierres. Nous devions donc redoubler de prudence, car nous ignorions sur qui nous pouvions tomber. Cependant, nous ne devions pas risquer grand-chose, car aussi loin que se portaient nos regards, ils ne rencontraient que des cultures et des prairies. Seul, au loin, un tracteur commençait un labour d'automne et soulignait ainsi la vastitude des lieux. C'est alors que Jean-Pierre aperçut, entre deux énormes genêts, une masse blanche qui dépassait du sol. Après observation, pas de doute, il s'agissait d'une mâchoire énorme avec des dents plus grosses que nos doigts. Après avoir creusé tout autour avec mon canif, c'est une grosse tête oblongue, intacte et complète, que nous avons mise au jour. Cet assemblage un rien monstrueux nous donne le crâne d'un animal terrible et inconnu. Nous faisons très discrètement demi-tour et rentrons directement chez nous en camouflant la trouvaille précieusement dans mon caban. Rentré à la maison, je la montrai très fièrement à papa qui me dit « Mais où donc as-tu pu trouver ce crâne de cheval ?»« De cheval ? Alors ça, c'est un peu fort. Ce monstre n'est qu'un cheval ? Moi qui croyais déjà avoir trouvé un nouveau gisement d'iguanodon comme celui de Bernissart. » J'expliquai alors où j'avais fait cette découverte. Mais ce n'est que le surlendemain que nous eûmes le fin mot de notre aventure grâce à une relation de travail du papa de Jean-Pierre. L'endroit où nous avions trouvé notre trésor s'appelait le paradis aux chevaux. C'était là que le charbonnage enterrait ses chevaux morts. Ces chevaux, qui avaient tiré les wagonnets au fond de la mine toute leur vie, y terminaient leur jour car ils n'auraient plus pu supporter la lumière du jour après tant d'années dans l'obscurité. C'est seulement après leur mort naturelle qu'ils étaient remontés à la surface pour la dernière fois. À courte distance du cimetière des hommes, entouré de ces hauts murs ternes, leur paradis était un vaste terrain en pleine nature, avec le ciel et l'horizon pour toute limite.